Puis je me souviens des... l'auto blanche du centre jeunesse est arrivée avec les deux intervenantes, les deux petites, puis la plus jeune avec sa petite queue de cheval dans les serres. Puis elle est rentrée dans la maison, là, puis aussitôt qu'elle est rentrée dans la maison, là, je suis devenu papa. Je suis devenu super protecteur, puis je me suis dit, aujourd'hui, mon rôle de papa commence là. Il commence pas dans 3 ans, il commence là.
Dans cet épisode, on va parler des familles LGBTQ+, des couples homoparentaux, des familles pluriparentales et sans oublier les grands-parents trans. Bienvenue à Ensemble pour tous. Dans cette série balado, Fierté Montréal vous propose un road trip partout au Québec pour discuter avec des gens de la communauté sur les réalités d'ESLGBTQIA+. Je m'appelle Coco Bilivaux et je serai votre conductrice sur le vélo tandem verbal de ce balado.
Je m'appelle Mona Greenbaum. Je suis la directrice générale de la Coalition des familles LGBT+. C'est un organisme qui existe depuis 25 ans. On a été fondé en 1998.
Nous avons parlé à Mona Greenbaum de la Coalition des familles LGBT+. Mona a créé l'organisme pour venir en aide aux futurs parents qui voulaient, comme elle, fonder une famille à leur image. Ou à l'image de la mienne, c'est-à-dire sans ongles gênants à tolérer pendant Noël.
Dans le temps, je travaillais dans un autre domaine complètement. Je n'étais pas dans la communautaire, mais moi et ma conjointe, on a décidé d'avoir un enfant et c'était compliqué. Donc, on a dit, si jamais on réussit à avoir un enfant, on va peut-être fonder un petit groupe social parce qu'on manquait d'informations, on manquait de communauté, on ne savait même pas comment créer cet enfant-là. Donc, c'est comme ça que l'organisme était né. À la fin de ma grossesse, j'ai commencé à mettre en place les choses pour qu'un petit groupe se forme. Au début, quand notre groupe était fondé, c'était l'Association des mères lesbiennes, parce que dans le temps, la réalité des hommes gays qui fondaient une famille, c'était pas là. Comme il n'y avait pas d'hommes gays qui fondaient des familles. Il y avait des hommes gays qui étaient dans des relations avec des femmes, qui ont eu des enfants, mais ça n'existait vraiment pas. Donc, au début, c'était les mères lesbiennes. Et on a constaté assez rapidement que non seulement il y avait un manque de communauté, puis un manque d'informations, mais il y avait un manque de droits aussi. Donc, manque de droits en termes de comment fonder nos familles. On n'avait pas accès aux cliniques de fertilité. C'était bloqué. On ne pouvait pas adopter des enfants. On n'avait pas une reconnaissance légale pour nos familles non plus. Donc ça, c'était vraiment dans les premières années, on a beaucoup lutté pour ça, pour avancer ça. Et puis, on a eu pas mal de succès. On a pu changer le code civil, on a eu accès à la procréation assistée, à l'adoption à des enfants québécois. Aujourd'hui, c'est pas même 25 ans plus tard, il y a toujours des lacunes dans nos droits, des lacunes en termes de différentes constellations familiales. Par exemple, on vient juste récemment, il y a quelques semaines, d'avoir un encadrement légal pour la gestation pour autrui. Donc, les femmes porteuses, donc ça, c'est une façon que, surtout, mais c'est pour tout le monde, mais surtout les hommes gays vont fonder leur famille avec l'aide d'une personne porteuse. Ça, c'était pas encadré au Québec jusqu'à récemment. On a une cause maintenant devant le Cour supérieur pour reconnaître les familles pluriparentales. Aussi, donc une autre forme de famille qui n'est pas reconnue légalement. Et il y a toujours la reconnaissance sociale de nos familles. Puis ça touche, c'est sûr, les familles dans les grandes villes, mais ça touche aussi probablement encore plus les familles LGBT qui vivent en région. Et beaucoup de nos membres vivent à l'extérieur de Montréal ou à l'extérieur du Québec. Et parfois, ils sont les seuls dans leur village ou dans leur région d'être une famille LGBT. Je dirais que comme d'abord, on a besoin d'une reconnaissance légale, mais avoir cette reconnaissance légale, ça ne garantit pas qu'on est accepté socialement. Puis on voit ça un peu partout. Maintenant, c'est beaucoup pour les familles avec parents trans et non-binaires, où ils sont beaucoup moins acceptés. Puis on voit ça dans le quotidien aussi, juste les petites choses comme les formulaires, comme un formulaire scolaire qui dit toujours mère ou père, qui ne considère pas les pronoms, qui ne considère pas différentes constellations familiales. Donc c'est un peu comme si que nos familles subissent pas la violence ou les micro-agressions, c'est sûr que on est invisibilisé. Et puis ça, on le voit partout. Et plus qu'on est dans une région où il n'y a pas une tonne de familles LGBT, plus qu'on va être invisibilisé. Pour nous, c'est très, très, très important de créer de la communauté pour ces familles, pour que comme les familles en général, mais surtout les enfants, ne se sentent pas seuls. Donc, d'avoir l'idée que comme une jeune qui est à l'école et qui est le seul dans son école, d'avoir deux mères ou deux pères, de savoir que « Oh oui, il y a d'autres familles comme ma famille, que je ne suis pas la seule d'avoir une famille comme ça. » Puis le grand travail de la coalition, c'est la sensibilisation des professionnels qui travaillent avec les jeunes et qui travaillent avec les familles. Donc, à la coalition, on a une équipe d'une dizaine de formateurs, formatrices qui vont partout au Québec. On est dans toutes les régions du Québec. Et on forme les enseignants, les travailleurs sociaux, les médecins, les infirmières. Donc, comme ça, ça crée des personnes qui sont conscientes de notre existence.
On est allé à la rencontre de Stéphane Lambert à Victoriaville. Avec son conjoint, ils ont accompli la mission de devenir papa au pluriel en s'inscrivant à la banque mixte du Centre jeunesse.
Puis, tu sais, au niveau des couples, je vous dirais que des couples gays, dans la première rencontre, tu devais peut-être en avoir 3 ou 4. Puis, tu sais, au Québec, ça, c'est le Centre jeunesse, c'est fera jamais la différence dans le sens que il n'y en a pas de problème. La seule affaire qu'ils veulent, c'est que ça fasse minimum 5 ans que tu sois avec ton conjoint ou ta conjointe. Tu sais, puis moi, je trouve ça raisonnable. Pendant 20 mois de temps, on a eu des rencontres à tous les mois, des rencontres individuelles avec la travailleuse sociale, des rencontres de couple. Puis ils posent des questions, puis ils en posent des questions. Puis après ça, ils posent d'autres questions. Puis, tu sais, dans le sens, il faut que tu sois vrai. Tu peux pas mentir lors de ces rencontres-là parce que si dans le mois de juin, ils t'ont posé une question, dans le mois de juillet, ils vont peut-être la poser différemment, mais ça va être la même question. Fait que si tu as menti, bien, ils vont savoir. Ils vont savoir. Il y a un processus, il y a une sélection qui est faite face aux questions. Puis c'est des questions que... puis c'est des rencontres qui sont longues. Puis on avait fini nos rencontres au mois de juillet, fin juillet, pendant les vacances de construction. Je me souviens. Après ça, vous allez avoir des résultats bientôt. Fait que là, on attend et on attend. Puis on se questionne toujours. Puis là, à un moment donné, tu penses juste à ça, là. Puis là, il y a des fois, tu pognes des dents. Tu dis, ben moi, j'en veux des enfants. J'en veux... Mais par la suite, le fameux appel le 1er octobre, je me souviens, là, j'étais à mon bureau au 2e étage et l'intervenante, elle m'appelle, elle dit « Oui, bonjour Stéphane, est-ce que ton conjoint est là? » Je dis « Ben non, il est au travail. » Fait que là, elle me dit « Ben là, j'appelle pour vous dire une bonne nouvelle, mais tu sais, j'aurais aimé ça que ton conjoint soit là, mais là, elle dit « Il travaille. » Fait que ben, je dis « OK. » Fait que, puis je dis « Il enseigne. » Fait qu'on peut pas, j'ai pas son numéro non plus, puis il traîne pas nécessairement toujours son cellulaire. Fait qu'elle me dit « Vous avez été accepté. » Fait que là, moi, je me lève dans mon bureau, puis là, je vois la chambre d'amis, puis je me dis « OK, on a été accepté. On a vraiment été accepté. » Fait que là, moi, je me dis, ben là, on va changer la chambre d'amis. Puis moi, dans ma tête, à moi, c'est, vous avez été accepté, dans 3 mois, vous allez avoir une proposition. Tu sais, c'est ça qui me passe dans ma tête. Puis là, elle dit, j'aimerais ça. Elle dit, j'ai une deuxième bonne nouvelle. Elle dit, OK, j'ai dit, c'est quoi? Mais elle dit, on a un projet pour vous. Moi, je suis très... Je suis pas dans ma tête, mais tu sais, moi, dans ma tête, OK, ils ont déjà une proposition, puis ça va aller dans 3 mois, pareil. Dans... Elle dit, ben, on a une proposition. Elle dit, ça nous prendrait une réponse d'ici 13 heures. OK. Puis là, j'ai dit, c'est quand? Ben, elle dit, lundi. Lundi, là. Elle dit, oui, dans 2 jours. Mais lundi, là? Là, moi, vraiment, mes 2 genoux ont plié tout seul. Je devais être assis dans les marches. Là, je me mets à pleurer. Puis là, je dis à l'intervention, je dis, excuse-moi, je ne sais pas comment gérer ça. Elle dit, non, c'est correct. Puis, elle était au bout du fil, puis la ligne, puis elle me parlait. Elle dit, c'est correct, Stéphane. Là, je dis, il faut que j'annonce la nouvelle. Mais je dis, attends un peu. Je dis, moi, c'est oui, mais tu sais. Puis là, on n'avait pas les noms des enfants non plus. On savait que c'était 2 sœurs, 2 petites sœurs. Il y en avait une de 16 mois et l'autre de 4 ans. Et par la suite, c'est là, j'appelle mon chum, puis là, je lui mentionne. Je dis à mon chum, tu sais, il m'avait pas répondu, mais le deuxième appel, je dis là, tu sors de ta rencontre, on se parle, let's go. J'ai dit, là, on a une décision à prendre. Fait que, tu sais, puis il faut aviser nos employeurs aussi. Dans le sens que ça se peut du jour au lendemain qu'on devienne parent. Fait que mon chum, lui, il avait avisé sa boss, en fin de compte. Puis il est allé la voir la journée même. Il dit, là, on a une décision à prendre. Fait que ça se peut que je rentre pas lundi. Je prends mon congé parental. Fait que je m'en vais annoncer ça à ma mère. Parce qu'on va annoncer ça aux beaux-parents. Puis je me souviens, après ça, on avait été magasiner des choses parce qu'on n'a rien. Parce que dans tout processus, ils nous disent toujours, allez rien acheter. Parce que si vous achetez quelque chose puis que vous n'êtes pas retenu comme couple, là, ça va être rough. Ça va être vraiment rough pour vous autres. Mais, fait que, moi, je m'en vais là avec mon chum. Puis je suis dans le coin des carrosses. Puis je me rends compte que ça prend donc bien du stock, les enfants. Puis là, j'ai comme un vertige. Puis je me dis, aïe, aïe, mais qu'est-ce qu'on va faire? Puis, fait que là, écoute, on va y arriver. Puis je me souviens, le soir, le vendredi soir, on avait un souper privé avec tous les amis. Tu sais, la gang, là, tu sais, on est 25, là. Puis ça faisait des semaines que c'était prévu. Fait que mon chum, il dit, on annule-tu le souper? Je dis, pas pantoute. Je dis, on annule rien. On y va, je dis, on va célébrer ça. Fait qu'on arrive au souper, puis là, le monde, vous avez donc bien l'air heureux. Puis là, on annonce la nouvelle. Puis les autres, ils pensent tous que, parce que c'est moi qui avais collé la shot pour faire le souper. Ils disent, c'est pour ça que tu as choisi cette date-là. Je dis, non, gang. On le sait depuis 1h après-midi. Depuis 1h après-midi. Là, ça applaudit. Tout le monde la gang. C'est beau. Tout le monde est content pour nous autres. Puis c'est rare. Là. Moi, là, je vais toujours m'organiser tout seul. Là, dans le sens que c'est rare que je demande de l'aide. Puis là, on a vraiment dit au monde, là, gang, on a besoin d'aide. On n'a pas rien. C'est tellement beau, les gens, tout ce qu'ils nous ont donné, qu'ils nous ont donné des coups de main. J'ai des amis qui sont descendus de Québec, sont venus passer la journée. Mes beaux-parents, ma mère, le lundi matin. Puis, tu sais, moi, je tenais. Puis, ça, c'était. Moi, je tenais à ce que les enfants rentrent dans la maison puis qu'il y ait un souvenir d'odeur. Puis, l'odeur, pour moi, c'est une sauce à spaghetti.
Pour Stéphane, l'ambiance olfactive d'une sauce à spag faite maison apporte des tant de souvenirs d'enfance et donne l'impression d'être chez soi. Pour moi, au grand désarroi de mon entourage et des vampires, c'est l'odeur de l'ail qui m'apporte ce même réconfort.
Mon chum puis moi, on était à table, puis on attend. Là, tu sais, t'attends les 2 enfants. C'est pas... je suis toujours émotif quand je dis ça, mais... C'est un drôle de sentiment. Parce que t'attends des enfants, mais tu sais pas si ils vont être à 3 enfants. Tu sais pas comment tu vas les aimer. Tu sais, dans le sens que tu vas dire, je vais être comment comme papa? Puis je me souviens de l'auto blanche du centre jeunesse arrivée avec les 2 intervenantes, les 2 petites, puis la plus jeune avec sa petite queue de cheval dans les serres, puis elle est rentrée dans la maison, là, puis aussitôt qu'elle est rentrée dans la maison, là, je suis devenu papa. Je suis devenu super protecteur, puis je me suis dit, aujourd'hui, mon rôle de papa commence là. Il commence pas dans 3 ans, il commence là, puis à partir de cette journée-là, là, les 2 petites, là, ça a été quand même impressionnant. Je pensais pas de m'attacher autant. Puis là, on rentre dans le processus, dans le sens que c'est le centre jeunesse. Nous autres, ça a pris 3 ans et demi. C'est sûr que T'sais, au Québec, ils vont donner la chance, si je vous cacherai pas, ils vont donner la chance vraiment aux parents de se prendre en main. Mais quand cette chance-là est mal utilisée, là, il y a une décision du juge que bon, les enfants demeurent, puis là, on les a vraiment adoptés. Mais cette sensation-là, pour de vrai, lorsque les enfants sont arrivés, là, que la porte s'est fermée, puis tu sais, les intervenants du centre jeunesse là, sont formidables. On est tellement bien encadrés, là. Puis il y a des fois là, que tu te questionnes, là, tu te dis, je fais tout ça pas correct. Puis tu sais, je me souviens à un moment donné, là, les enfants, là, tu sais, je vous dirais pas que c'est facile. Jamais. Si les gens veulent me dire, hey, devenez famille d'accueil, ben, mais c'est facile. C'est non. C'est non. C'est difficile. C'est difficile. Vraiment. Mais les joies qu'il y a autour de ça, ah!
Contrairement aux périodes de 9 mois d'incubation des couples hétéronormatifs qui participent à la loterie du sperme et de l'ovule, le processus de l'homoparentalité peut s'étirer sur des années. Et on ne sait jamais quand on va recevoir l'appel fatidique qui nous fera échanger les drag brunch pour l'heure du compte avec Barbada.
Et au niveau de, tu sais, d'être un couple gay ou hétérosexuel, les problèmes des enfants vont être les mêmes, tu sais, dans le sens que l'enfant va tomber, il va se faire mal, puis nous, les deux, les enfants, tu sais, c'est ça, papa, les deux nous appellent papa, ça a été super rapide avant, quand les enfants nous ont appelé papa. Je vous dirais que mon conjoint, ça a pris 3 semaines. Moi, ça a pris, les enfants, avant qu'ils m'appellent papa, ça doit avoir pris, je sais pas, 2 ou 3 mois. Je sais pas pourquoi. Moi, les enfants m'ont demandé l'autorisation. Est-ce que je peux appeler mon conjoint papa? Fait que moi, j'ai dit, ben oui, vous pouvez l'appeler papa si vous voulez. Il n'y a vraiment aucun problème. Puis moi, j'ai rien forcé. La sœur, c'est toujours papa Steph, papa Steph, papa Steph. C'est super beau. Mais on vit les mêmes affaires. Puis même au niveau de la garderie, au niveau des écoles, l'ouverture est là. J'ai pas vu de jugement ou de remarques déplacées. Parce que nous autres, à l'école, il n'y a pas de couple gay. À l'école, je ne penserais pas de parents gays. J'ai pas été témoin de ça. Mais c'est super apprécié. T'sais, les gens respectent ça vraiment beaucoup. Et c'est sûr que quand tu remplis des formulaires, c'est encore le père, mère. Mais là, j'ai su qu'en 2023-2024, c'était pour changer ce document-là. Je pense qu'il y a un débat autour de ça, un peu. En tout cas, qu'est-ce que j'entends aux nouvelles? Être parent numéro 1 et être parent numéro 2, on s'entend, là, que c'est quand même ça, l'idéal. Tu sais, dans le sens que moi, quand c'est marqué, tu sais, mon conjoint, lui, c'est toujours le père, tu sais, le père. Mais moi, je barre mère, puis je marque mon nom. Est-ce que je vis bien avec? Oui, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de bien vivre avec ça. Mais, mon Dieu, que ça serait intéressant de voir parent numéro 1, parent numéro 2. C'est bien marqué juste parents, point final. Parents, parents, d'attitude, tout le monde va être bien heureux. C'est tellement simple. Puis là, c'est pas parce qu'on t'enlève le droit d'être mère ou le droit d'être père, là. Vos droits sont là, c'est parents. Fait que tu sais, il y a ça, il y a pas de... J'ai pas vécu de... Même à la garderie, j'ai pas vécu d'aucun regard. Mauvais regard, jamais. Même il y a des fois, les enfants, moi, j'aimerais ça avoir 2 papas. Moi, j'aimerais ça avoir 2 papas. J'aimerais ça avoir 2 mamans. Fait que, tu sais, puis la conversation des jeunes. Tu sais, je parle, tu sais, des fois, je parle avec mes neveux, mes nièces, puis avec mes enfants. Quand on va avoir un chum ou une blonde, arrêtez de dire, quand on va avoir ta blonde ou quand on va avoir ton chum, non. Quand on va avoir un chum, une blonde, tu sais, puis même, il faut se dire, tu peux rester tout seul toute ta vie, c'est correct aussi. On n'est pas obligé d'être en couple pour être heureux. Puis, tu sais, au niveau des tâches, les tâches restent pareilles comme dans n'importe quel couple. Tu sais, il y a des fois que... Moi, c'est sûr, lorsque je tombe en événement, c'est plus mon chum qui gère pendant l'événement. Sinon, les tâches sont tellement partagées, tu sais, dans le sens qu'on y va vraiment avec nos forces. Nos forces et notre efficacité. Mais dans le traitement, dans la vie de tous les jours, là, on... Tu sais, on partage les tâches vraiment comme n'importe quel couple, mais c'est sûr que ça dépend, c'est très variable. Ça dépend vraiment des horaires de travail à tout le monde. Fait que moi, quand je suis capable de faire la préparation des événements, ben c'est sûr que il y a bien des fois que je me lève à 4h30 du matin, je réponds à mes courriels jusqu'à 6h, les enfants se lèvent, OK, on s'occupe des enfants, après ça, on retourne travailler. C'est sûr que la conciliation famille-travail, avant ça, j'utilisais le mot travail-famille. Maintenant, j'avais discuté avec un de mes amis qui m'avait dit, non, Stéphane, c'est quoi ta priorité? Mais je dis, c'est ma famille. Fait qu'il dit, c'est famille-travail maintenant. Fait que j'utilise toujours le terme famille-travail. Je trouve ça beau en plus.
Il y a un manque souvent de visibilité de nos familles. Donc, on oublie que ce n'est pas juste les familles hétéro-cisgenres qui existent. Donc, on n'est pas, comme par exemple, quand notre enfant va à l'école, il n'y aura pas des livres sur les familles avec deux mères ou deux pères ou une parent trans.
On voit aujourd'hui de plus en plus de modèles de familles différents. Pourtant, Mona remarque qu'il manque de représentation pour les familles LGBT+ dans la littérature. Par exemple, on ne connaît pas réellement l'identité de genre des parents de Hansel et Gretel. On sait tout simplement que ce sont des parents négligents qui laissent leurs enfants se promener dans les bois avec seulement des miettes de pain pour retrouver leur chemin.
Il peut y avoir de l'intimidation de nos enfants, mais on constate et puis ce que la recherche nous confirme, c'est que nos enfants ne sont pas plus intimidés que les autres enfants, mais nos enfants sont très sensibles à l'homophobie et la transphobie dans leur environnement. Donc, même si c'est notre enfant qui est intimidé d'une façon homophobe ou transphobe, nos enfants vont le filer, vont le constater, vont le sentir parce que comme ça parle de leur famille. Donc, ça, c'est vraiment un grand travail de la coalition. C'est vraiment de lutter contre l'intimidation, de travailler contre l'homophobie et la transphobie dans le milieu scolaire. Donc, le bien-être des jeunes est très important pour nous. Mais je pense que comme un peu... l'évolution que je vois déjà depuis 25 ans, j'aimerais que ça continue et puis que d'autres formes de familles soient reconnues comme les familles pluriparentales avec notre cause devant la Cour supérieure. On a des bons espoirs que bientôt ces familles vont être légalement reconnues et que les différentes formes de familles soient valorisées. Donc, c'est pas juste dire comme, OK, ces familles sont égales à nous et puis il n'y a aucune différence, on traite tout le monde de la même façon. C'est plutôt dire comme, oh wow, il y a une diversité, puis cette diversité est vraiment belle et c'est intéressante et c'est le fun d'avoir différents types de familles et ça enrichit une communauté.
À part ça, OK, ça c'est important, il y a des gens que ça va titiller les oreilles, mais je suis toujours le père et le grand-père de mes petits-enfants. Okay, j'ai maintenant 4 petits-enfants depuis ce mois-ci.
Au Saguenay, Mme Claude réécrit sa propre histoire en vivant sa transition au début de la soixantaine. Déjà parents et grands-parents, ses petits-enfants apprennent à la connaître sous une nouvelle lumière et une nouvelle jupe.
Ben écoutez, c'est pour vous dire, là, on s'est mariés, Linda et moi, il y a 5 ans, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et lorsqu'on s'est mariés, même mon aînée était enceinte de jumelles. Non, mais j'ai trouvé le fun. Ma plus jeune a parlé devant tout le monde. Et dans la salle, très peu de personnes à ce moment-là étaient au courant. Je n'avais pas commencé à vivre pleinement femme en dehors du travail. Parce qu'il y a eu des étapes. Aller faire l'épicerie une fois, aller au centre d'achat une fois. Pour finir, qu'à un moment donné, j'ai décidé maintenant, ma vie en dehors du travail... Je suis femme, bonjour, merci, mais j'envoyais le gars travailler. Et à ce moment-là, sur les 38 personnes qui étaient présentes, il y a quelques personnes qui étaient au courant de la chose, mais il y en a beaucoup qui ne le savaient pas. Ma fille a fait une lecture, et dans sa lecture, pour ceux qui savaient, c'était clair, les gens qui ont la majorité des gens ont pensé que c'était le fait d'être avec mon épouse qui avait fait tant, qui m'avait fait tant évoluer, tant prendre d'assurance et tout. Mais ceux qui savaient, ils savaient que c'était... Parce que ça faisait, quand on s'est mariés, ça faisait 13 mois que j'étais sous traitement hormonal. Et je sortais pas encore femme en public, à part une fois de temps en temps. Alors, mes filles, c'est le fun. Ma grande m'appelle ma père. Parce que je suis le père, je suis grand-père. Les petits m'appellent grand-père. Puis je fais un plaisir fou d'aller au restaurant avec ma fille et les enfants sans que mon gendre soit là. Puis que là, les petites, grand-père, là, le monde autour cherche le grand-père. Là, je suis bien, je suis à l'aise avec qui je suis. Puis non, ça va très bien. D'ailleurs, la chose drôle, je vous la compte. Mon petit-fils, hein, justement, tu sais, quand on parle d'avoir de l'aide, là, bon. Ouais, là, il faudrait bien un moment donné que mon petit-fils me connaisse tel que je suis. Fait qu'à un moment donné, ma fille, on va au restaurant. Je dis, ah oui. Je me présente au restaurant, femme. Mon petit-fils arrive. Puis les jumelles étaient naissantes. J'avais le pouce-pouce, c'était le fun. Le monde au restaurant regardait pour moi, il regardait les petites. Puis bien, ça arrive. S'occupe pas de moi, c'est sûr, ma blonde est là, l'univers arrête, il s'en va trouver ma blonde. On passe la journée, on sort du restaurant, on s'en va au salon du livre. On passe la journée ensemble. Mais le petit, pas de réaction, rien. On se retourne à la maison. Ma blonde, elle dit, le petit, t'as-tu reconnu? Je sais pas. Alors, on appelle sa mère. « Hey, le petit, il a-tu reconnu son grand-père? » La fille, elle dit, « Ça peut moi demander. » Elle demande, « Hey, c'était qui la madame qui était avec nous autres aujourd'hui? » Lui, de la regarder et d'y répondre simplement, « Ben, c'est ta grand-père. » C'est tellement arraché la tête, essayer de savoir comment faire. Ben non, c'est ta grand-père, c'est tout. Par contre, j'ai pris soin par la suite de jamais me représenter garçon.
Une chose est sûre, si on peut élargir notre définition de ce qu'est un grand-père, on peut assurément élargir notre définition de ce qu'est une famille. C'est ce que Marie-Claude, travailleuse sociale et maman homoparentale, a comme mission.
Nous, on est une famille homoparentale recomposée, donc on est deux femmes avec trois enfants. Moi, je travaille sociale aussi, fait que je travaille à la maison de la famille. Tu sais, moi, la première chose que je trouve importante par rapport aux familles, tu sais, c'est de vraiment être plus inclusif. C'est très drôle parce que quand j'ai commencé à faire des contrats à la maison de la famille, les gens étaient très ouverts, mais ils me disaient, mais on n'en a pas des familles homoparentales, on n'en a pas des personnes non-binaires, on n'en a pas. Et là, à partir du moment où moi, je suis rentrée dans la boîte puis que je me suis mis à utiliser l'anglais inclusif, à dire juste parents, au lieu de dire maman, papa, parce que, puis surtout beaucoup maman, parce que les organismes sont beaucoup fréquentés par des personnes assignées femmes. Donc, juste ça, hop, tout d'un coup, ah, on avait des parents non-binaires, on avait des enfants qui étaient pas mal des enfants trans, en tout cas, en sérieux questionnement. On a eu, oups, on avait toutes sortes de réalités là, qui arrivaient. Là. Donc, c'était simplement le fait d'ouvrir, mais d'ouvrir pour vrai. T'sais, donc, on a aussi une personne non-binaire qui venait d'avoir un enfant solo. Il y avait toutes sortes de réalités, mais les gens n'étaient juste pas à l'aise d'en parler, même s'il y avait une affiche nouvellement sur le mur, là, la belle petite affiche avec le bracelet, c'est un bébé, puis ça écrit, homosexuel, dans le fond, on est comme ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Moi, je pense que les changements qui sont apportés, c'est pas tant de faire à un moment donné une journée où on parle de « Ah, comment arrivent les bébés dans les familles? » Ça, oui, je veux dire, il y a des documents, il y a toutes sortes de choses qui parlent de ça. Moi, je pense que l'important, c'est vraiment, vraiment, vraiment d'aller de plus en plus vers, d'incarner cette ouverture-là.
En utilisant un langage plus inclusif, Marie-Claude permet à différents modèles de famille d'enfin se reconnaître. Prenons le mot « parent », par exemple. Contrairement à maman et papa, quand on utilise le terme « parent », on ne spécifie ni le genre ou le nombre de parents. Ce qui est bien si on considère que ça prend un village pour élever un enfant. Et c'est cette même réflexion qui pousse Mona Greenbaum à défendre les droits des familles pluriparentales.
Les familles pluriparentales ont toujours existé. Et puis, c'est très occidental, la notion de la famille nucléaire. Donc, deux parents, deux enfants vivant dans le banlieue avec leur chien. Il y a toujours eu, à travers le temps et puis à travers les cultures, différentes formes de familles, puis des familles pluriparentales. Ces familles ont toujours existé, sont stigmatisées dans le sens qu'on a certains préjugés contre ces familles-là. On pense que un enfant avec trois ou quatre parents va peut-être avoir de difficultés à s'attacher ou qu'est-ce qu'on fait si la famille se sépare, l'enfant va vivre entre quatre différentes maisons. C'est pas le cas du tout, mais c'est sûr que comme légalement comme ces familles existent pas, donc il y a toujours au moins une, parfois deux parents qui sont pas légalement reconnus, ce qui entraîne toutes sortes de difficultés. Et ce qu'on a vu avec les familles homoparentales, c'est que la reconnaissance légale mène à la reconnaissance sociale. Donc, il faut commencer avec ça et puis ensuite, ces familles vont devenir de plus en plus visibles et de plus en plus comme acceptées socialement. Donc, pour le moment, il y a comme un manque total de visibilité sur ces familles, mais ils sont là, ils existent. Donc, ce n'est pas une question de les permettre d'exister, c'est vraiment une question de reconnaître tous les parents dans une famille que l'enfant reconnaît parce que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Parce que si on n'a pas comme l'appui du gouvernement et que nos familles sont comme par nos législateurs reconnues, ça donne les leaders de notre société donnent l'impression que ces familles comptent pas. Donc, c'est très important. C'est pour tous les types de droits au monde. Donc, je ne parle pas juste des enjeux LGBT. C'est toujours une reconnaissance légale qui commence à faire rouler les choses. Mais ça va dans les deux directions. C'est sûr que si on est complètement socialement pas accepté, c'est rare que ça va avancer. En même temps, on est très chanceux au Canada d'avoir, comme au niveau fédéral et provincial, des chartes des droits et libertés. Donc, ce que ça fait, c'est que même si socialement, il y a comme une minorité qui n'est vraiment pas reconnue, on a quand même des lois qui nous permettent de donner des droits aux minorités, même les plus faibles minorités. Donc, ce n'est pas comme un concours de popularité, mais plutôt une question éthique, une question de justice sociale. Donc, les chartes des droits et libertés, que ce soit au Québec ou au niveau fédéral, sont fabuleux. Puis, c'est une chose qui n'existe pas dans beaucoup d'autres pays. Je pense qu'il y a une tendance à penser que toutes les familles LGBT vivent à Montréal ou à Québec, puis c'est pas du tout le cas. En fait, on le sait, comme je peux regarder notre base de données, puis je sais que la majorité de nos familles à la coalition vivent à l'extérieur des grands centres urbains, mais même il y a des statistiques gouvernementales qui nous disent qu'autour de 64% des familles LGBT vivent à l'extérieur des grands centres urbains. Donc c'est intéressant parce que c'est comme quand une personne fait son coming out, il y a comme une tendance à aller vers des grands centres. Donc ça, c'est une chose connue. Mais quand on pense à fonder une famille, l'inverse est vrai. Donc souvent, même des personnes qui sont de Montréal vont déménager à l'extérieur de Montréal pour avoir un enfant.
Ce qui est certain, c'est que les modèles de famille sont aussi variés que les recettes de tourtière de nos grands-mères. Mais elles ont toutes la même composante de base, l'amour. C'est avec cet ingrédient essentiel qu'on élève des êtres humains qui se comportent avec compassion, en espérant qu'elles pourront aussi fonder un jour une famille qui leur ressemble. Aussi longtemps que la tourtière n'a pas des petits pois dedans, moi, je suis heureuse. On remercie Mona, Marie-Claude, Stéphane et Madame Claude de nous avoir invités dans leur famille. On se voit à Noël? Fierté Montréal souhaite reconnaître le soutien financier du programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre du ministère des Femmes et de l'égalité des genres du Canada, qui a permis la réalisation de la série Balado « Ensemble pour tous ». Réalisée et scénarisée par Marie-Hélène Frenette-Assad, Assistance à la réalisation et coordination, Geneviève Corrigan. Conception et idéation, Samuel Desrosiers. Recherche, Stephen Gentil. Musique originale, Marie-Hélène Frenette-Assad et Geneviève Corrigan. Montage et mixage, Roxane Potvin. Ensemble pour tous est une production de Fierté Montréal. Mon nom est Coco Béliveau. Merci pour votre écoute.